Africa, le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, le JDA, l'émission où vous avez la parole sur Africa Radio, dernière édition de la semaine. Ce vendredi dans le JDA, c'est bien sûr la libre antenne, hein, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. Alors parmi ceux-là, vous êtes nombreux à vouloir parler du Ramadan au temps du Covid-19. Il commence aujourd'hui dans de nombreux pays. Certains d'entre vous veulent réagir, et c'est normal, à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande à la justice ivoirienne de sursoir au mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Nous reviendrons aussi sur la question des dettes de l'Afrique et du moratoire annoncé par le G20, mais venez vous exprimer aussi sur le sujet de votre choix. Je pense notamment au Togo, après l'arrestation d'Agbeyome Kodjo, ou encore le résultat des élections législatives au Mali. Pour participer, le numéro à composer, c'est le 33 1 55 07 58 00. Confidence technique à ceux qui sont déjà au standard et aux autres, ceux qui nous écoutaient, chers auditeurs, je ne peux pas réceptionner hors antenne vos appels durant l'émission, donc ne vous inquiétez pas quand vous appelez, restez en ligne. Voilà, avant de commencer cette libre antenne, on se tourne vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa, vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio, après le bip, c'est à vous.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour toute l'Afrique. Voilà, j'ai mis un message, mais j'ai oublié de mettre mon nom, c'est Misséba de Montreuil. Voilà, le problème qu'il y a, nous les Africains, on a des gros problèmes toujours, on soulève des gros problèmes qu'on ne peut pas, et on ne peut pas soulever. Le problème qu'il y a, ceux qui sont décédés pendant le coronavirus, ils doivent être enterrés. Si il s'agit qu'on ne paye rien, même si on ne paye rien pendant qu'ils sont dans les morgues, pour moi, ce n'est pas sûr. Mais on ne va pas continuer à dire que non, on ne va pas enterrer, il fallait que ça soit, on l'amène en Afrique ou n'importe quel endroit. Mais on a dit que toutes les frontières sont fermées. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il faut que ça soit amené? Mais s'il a fait une chose, il faut accepter. Moi, je voulais que tu demandes les gens. C'est l'islam qui impose ça ou c'est quoi exactement? Ou c'est la Bible qui a imposé ça? Ils n'ont qu'à sortir et nous dire que tel endroit, le Coran a dit ça. Ou tel endroit, la Bible a dit ça.
Bonjour Stéphanie. Bonjour de Télatica Radio. Bonjour l'Afrique. Le confinement en Afrique, c'est un problème, un grand problème, et tout le monde le sait. Les autorités africaines le savent très bien, nos dirigeants, que les peuples d'Afrique ne peuvent pas être confinés, parce que les confinés, c'est les tuer. Donc tous, même, ils ne veulent pas, ils disent qu'on préfère affronter le virus que de mourir de faim chez nous, parce qu'ils vivent jour de jour. Ça, il faut être reconnaissant. Donc, ce que font les policiers, par exemple, chez moi, au Congo-Brazzaville, menacer les populations, les tabasser, être toujours dans l'incompréhension, c'est pas sérieux. Ils vont piller des magasins. Voilà, c'est sont eux qui pillent les magasins. Parce qu'on ne peut pas comprendre, il y a un couvre-feu qui commence à 20h jusqu'à, je ne sais pas, 5h, 6h, et tout le monde est dans la maison, et demain, on voit un magasin vandalisé. Voilà, on pille, on vole. Qui a volé? Ça, c'est quel civil qui va avoir le courage d'aller voler au moment où il sait qu'il y a des policiers autour de partout dans toute la ville qui montent ces magasins. Et ces magasins-là où on vole, c'est carrément au bord de. C'est sur les avenues, les grandes avenues, là où en fait on ne peut même pas aller voler si on n'est pas armé. Donc ce sont des policiers. On retrouve même les traces de leurs bottes. Mais ils sont là dans l'incompréhension. Moi, j'ai toujours dit en Afrique, nos policiers ont un grand problème. Ici, si on force des bavures comme ailleurs, partout dans le monde. Mais chez nous, j'ai comme l'impression c'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils travaillent.
Oui, bonjour Radio Africa. Mais Karim, il n'a pas perdu. Hein. Il l'a fait exprès, mais perdu, Karim, non. Parce qu'il sait très bien que ils ont tout ce qui lui reste, c'est 2 ans de mandat de son père. Donc, les 2 ans-là, son père, il ne va pas partir, qu'il lui reste. Donc, du coup, il s'est dit, il a perdu, mais il n'a pas perdu. Hein. Il l'a fait exprès. Les députés, là, il l'a fait exprès. Avec tout ce qu'il a pu. Il a des maisons à Dubaï, en Europe, ici, au Canada, aux États-Unis, qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Mais tout ce que je veux, j'aimerais bien dire au ministre de la Justice, je sais qu'il n'est pas indépendant. On ne laisse pas travailler indépendamment. Mais, monsieur le juge, tu as du boulot au Mali. Hein? Parce que ATT, il faut le juger. ATT, sa fille, Mabo, là. Mabo a des terrains qui coûtent dans les 100 000, juste des terrains, pas des maisons, hein, qui coûtent dans les 100 000 euros, 100 millions d'euros. Et ça, c'est quel genre de terrain au Mali? C'est quel genre de terrain à Bamako? Bamako même qui est rempli de poubelles, la capitale. Donc, il faut juger tout le monde. Hein.
Oui, bonjour Madame Atman. Bonjour amis auditeurs du JDA. Bon, vous savez, c'est vraiment regrettable pour le Bénin. Hein. Le Bénin qui est un grand pays de la sous-région africaine. Berceau de la démocratie dans les années 1990, le Bénin est devenu un État dictatorial. Aucun citoyen béninois n'a plus le droit de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. C'est vraiment regrettable pour le Bénin, qui est vraiment un État démocratique. Et avec l'avènement du président Patrice Talon, tout a bouleversé. C'est vraiment regrettable pour le Bénin. Bon, c'est très, très, très regrettable et c'est vraiment dommage pour le peuple béninois. Merci beaucoup et bonne journée, madame.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous hein, pour vos messages. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est donc la libre antenne dans le journal des auditeurs. Et pour commencer, direction Abidjan, sans plus tarder, vous nous écoutez sur le 91.1 FM, bien sûr à la une des médias ivoiriens. Vous le savez, hein, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, hein, dans une ordonnance provisoire, la CADHP, a demandé à l'État ivoirien de sursoir au mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro, candidat déclaré à la présidentielle. La Cour en demande également la libération de ses proches qui avaient été arrêtés fin décembre. On en parle tout de suite avec Dieudonné. Dieudonné, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs de Radio Africa.
Bonjour Dieudonné, bienvenue dans le journal des auditeurs. Alors que pensez-vous de cette décision provisoire hein, de la Cour africaine?
Oui, moi, selon moi, je voulais aussi passer par la décision et puis lancer un coup de cœur au président Ouattara pour que... Puisque c'est pas la cour d'appel seulement des droits de l'homme africain seulement. D'abord, c'était Interpol. Après Interpol, c'est Amnesty International. Après Amnesty International, ça devient le CADHP. Bon, vraiment, ça devient de trop. En tant qu'un démocrate, hein, je pense que souvent, il faut qu'il met un peu aussi, il n'a pas essayé de voir. Puisque hier, j'ai vu un de ses ministres, on dirait le ministre de la Communication, qui dit que oui, et ils n'ont pas de commentaires à faire là-dessus, mais il faudrait que, hein, si, chez eux, bon, chez nous en Côte d'Ivoire, ici, que c'est encore maintenu. Vous voyez?
C'est ce qu'il a dit. Hein, il dit que la justice, les procédures engagées par la justice ivoirienne restent en cours. Une façon de rejeter l'ordonnance de la Cour africaine.
Donc c'est pas joli à voir, Stéphanie. D'abord même là, l'échec de la crise ivoirienne électorale en 2010. Nous les Ivoiriens, nous avons échoué à la réconciliation nationale. Nous avons échoué à la réconciliation nationale. Et puis maintenant voilà encore, nous allons rentrer dans une crise, hein, comment on appelle
le truc crise politique selon vous.
Voilà, merci pour 2020. En temps, nous devons encore aller faire des recensements, hein, d'identification pour le 2020. D'autres sont incarcérés. Hein. Bon, c'est pas bien, c'est trop. Donc moi, je voulais lancer un coup de cœur au président Ouattara pour qu'il sache que, en tant qu'un démocrate, hein, avec toutes ces institutions internationales hein, qui laissent, hein, comment on appelle, le parti de Soro Guillaume et ses partisans en liberté pour que nous puissions faire une réconciliation entre nous hein, au pays ici. Voilà.
C'est très clair, Dieudonné, on entend bien que vous appelez le gouvernement ivoirien à appliquer finalement l'ordonnance de la Cour africaine, d'autant que l'État ivoirien est signataire du traité qui porte création de cette Cour africaine des droits de l'homme. Bonne journée du côté d'Abidjan, Dieudonné. Vous êtes dans quel quartier ?
Je suis à Cocody.
À Cocody, pas loin de nos bureaux qui sont actuellement fermés, malheureusement. Voilà.
Oui. Merci beaucoup, Stéphanie.
Merci à vous, Dieudonné. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. On continue de parler de cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avec Alassane. Alassane, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Alassane, bienvenue hein, dans le JDA. Dieudonné disait, hein, voilà, moi j'appelle le président ivoirien à se conforter à cette ordonnance et puis voilà, aussi à faire un geste hein, pour la paix et la réconciliation. Vous êtes d'accord
Oui, et moi je suis pas contre ce que la Cour africaine dit. Mm-hmm. C'est normal parce que nous sommes signataires. Mm-hmm. Mais il y a un problème parce que moi, je voulais savoir, la Cour africaine était où en 2010 quand on envoyait le président Laurent Gbagbo et le ministre Bleu Goudé à La Haye. Et j'étais où, au fait?
Ah, pour le moi, coup, là, ça. Alors je ne sais pas, il faudrait enquêter, je pense qu'il faudrait regarder un peu. Pour le voilà. coup, ce sont les avocats de Guillaume Soro qui ont saisi hein, la Cour, hein, qui ont fait une requête. Hein.
Et si...
Elle ne s'est pas auto-saisie.
Bon, et ils ne se sont pas penchés si... comment on appelle, la communication authentique de Soro Guillaume, ils ne se sont pas penchés, ils devaient se pencher sur ça aussi. Il y a eu une communication où on dit non que, où il dit non qu'il veut faire un coup d'État, il va, le sang va verser, mais ils devaient se pencher aussi sur ça. Mmh.
Alors, d'ailleurs, je précise, hein, puisqu'on a interviewé hier Afoussi Bamba, hein, qui est membre hein, du collectif des avocats de Guillaume Soro. Et effectivement, oui. dans l'interview, elle précise que la décision est provisoire, elle est sur la forme, et que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne se prononcera sur le fond que lors d'une audience en juin prochain.
Ok. Elle avait dit qu'elle avait des preuves, que c'est pas le juge, ils ont fait sortir la communication, la communication téléphonique. Elle avait bien dit que c'était pas tout, qu'elles ont le reste, ils vont donner. Mais jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens attendent le reste, c'est pas encore venu.
Donc pour vous, si j'ai bien compris, Alassane, hein, vous regrettez que la Cour s'est pas planchée sur le fond. Hein.
Oui, je veux qu'il se bat sur le fond, c'est pas sur... Et ils n'ont qu'à le libérer. On peut le libérer, oui, c'est vrai. Nous tous, on veut la paix en Côte d'Ivoire.
Oh, il n'est pas détenu, il est en exil.
Justice soit faite,
nous dit Alassane. Merci beaucoup, voilà. Alassane, de votre contribution.
Merci, au revoir, bonne journée. Merci pour tout ce que vous faites pour nous.
Merci à vous, surtout. C'est votre émission, mon cher Alassane. Merci beaucoup, excellente journée à vous aussi. Hein. Prenez soin de vous. 33 1 55 07 58 00. On va se diriger maintenant vers le Sénégal, où, au Sénégal, hein, comme dans de nombreux pays, c'est aujourd'hui le premier jour hein, du Ramadan. Ramadan Moubarak, Harouna. Bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Harouna. Alors un Ramadan qui va se dérouler dans des conditions spécifiques au Sénégal, par exemple, hein, où vous vous trouvez à Kolda, les déplacements entre l'intérieur du pays et la capitale sont interdits. Vous appréhendez ce Ramadan, Harouna ?
Bon, oui, bon. Mais avant d'abord d'entrer au vif du débat, permettez-moi de dire que voilà, le Ramadan n'est pas vraiment respecté à ce jour-là par tout le pays, à l'ensemble du pays. Parce que ici, dans notre région, la majeure partie n'a pas jeûné. Attend demain pour jeûner, en quelque sorte.
D'accord.
Oui.
Donc, ça commence plutôt alors, demain, ça dépend.
Oui, mais, oui, d'autres ont commencé aujourd'hui, d'autres c'est pour demain, quoi.
C'est très clair. Alors, du coup, Harouna, vous l'appréhendez, ce Ramadan ? Vous inquiétez ?
Oui, sûrement, ce sera un Ramadan particulier en quelque sorte parce que dû à la pandémie Covid-19, celui qui connaît le Sénégal sait que la majeure partie est composée de musulmans en quelque sorte. Et du coup, les mosquées refusées du monde durant cette période-là, c'est-à-dire les prières de la nuit en quelque sorte appelées Nafila. Et je pense que c'est dans ce sens-là que je dis que le Ramadan est très 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 particulier cette année au Sénégal en quelque sorte parce que avec les mesures qui ont été déjà prises par les autorités étatiques, le couvre-feu de 20h à 6h du matin, c'est ce qui complique la situation parce que nous savons que le Sénégal est un pays pauvre, beaucoup voilà, vivent au quotidien en quelque sorte. Ils sortent pour chercher quoi à manger, pour chercher la dépense quotidienne. Mais si on dit qu'il y a des mesures qui sont là, et d'ailleurs, il y a même une éventuelle possibilité de remonter jusqu'à 18h, en quelque sorte, le couvre jusqu'à 18h à 7h du matin. Alors, imaginons cela, les gens qui n'ont que par journée pour gagner leur vie. Ce que je veux dire par là, que le Ramadan sera vraiment très, très, très difficile ici au Sénégal, vu les conditions, vu la pauvreté, en quelque sorte.
À cela, on peut ajouter aussi, Harouna, la hausse des denrées alimentaires, hein, une hausse qui est fréquente en période de Ramadan, mais qui est accrue avec justement cette épidémie, non ?
Exactement. Ce qui justifie qu'il n'y a pas un contrôle, c'est-à-dire un contrôle des commerçants qui sont là, en quelque sorte, ils remontent les prix quand ils veulent, ils profitent, les citoyens sont parés pour remonter les prix. Et je pense que c'était le moment idéal que l'État puisse vraiment veiller au grain pour que vraiment les commerçants puissent fixer les prix et puisque qu'il n'y ait pas d'inflation des prix pour vraiment donner un ouf de soulagement aux populations, surtout aux gens pauvres ou bien qui par vraiment. C'est par jour qu'ils obtiennent leurs dépenses quotidiennes, en quelque sorte. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État devrait prendre des mesures. Même si on est en période de distribution des vivres, mais je pense que c'est très, très, très insuffisant par rapport à la demande, en quelque sorte.
C'est très clair. Merci beaucoup, Aruna, de votre participation. Puis, bon Ramadan aussi à vous, quand même. Hein. Bon courage pour ce mois de jeûne. Merci beaucoup, Aruna.
Merci beaucoup.
À bientôt du côté de Kolda, au Sénégal. 33 1 55 07 58 00. Je demande au 07 53 31 de patienter. On va arriver vers lui dans quelques instants. Avant cela, il y a trois auditeurs. Et parmi ces trois auditeurs, on commence avec José. José, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, José. Alors, bonjour. Vous vouliez. Bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous vouliez revenir, vous, José, sur la demande d'annulation de dettes, d'environ 365 milliards de dollars du continent africain. Vous n'êtes pas pour cette annulation. Vous avez d'autres suggestions, si j'ai bien compris.
Oui, moi, je sens de demander un cri de secours à nos dirigeants. Nos dirigeants, parce que là, on est au moment des crises du coronavirus. La population africaine, ils souffrent beaucoup. Nos enfants, il y a des villages qui n'ont même pas de masques. Et par contre, où ils viennent demander des crédits ici, et l'argent, les Africains, ils ne voient même pas l'argent. Donc, un cri de secours, nos dirigeants qui font un effort de débloquer cet argent-là, pour sauver la population africaine. S'il vous plaît.
On a vu quelques présidents, je ne sais pas si vous avez suivi, José, quelques présidents ont annoncé des dons personnels. C'est le cas d'Ali Bongo et de Paul Biya. Qu'est-ce que vous en pensez ?
De Sénégal et tout, mais bon, qu'ils fassent un effort. Qu'ils fassent un effort. Ce n'est pas leur argent, c'est l'argent des populations africaines. Ce n'est pas leur argent. Ou quand ils ont mort, ils ne vont pas être enterrés avec l'argent. L'argent, il va rester là. Donc, et qu'ils fassent un effort pour sauver la vie de nos enfants, de notre maman, de notre sœur.
Et si j'ai bien compris, José, vous dites aussi, au lieu finalement de mettre un moratoire sur le remboursement des dettes, vous dites il faut saisir les biens, c'est ça ?
Et vous saisissez les comptes.
Les comptes que certains dirigeants ont en Europe, c'est ce que vous dites, en Suisse notamment.
Oui. Tout ce qu'ils ont demandé, les crédits ici. Que les crédits, les populations africaines, ils ne voient pas l'argent, qu'on bloque leurs comptes. C'est facile. Le problème d'Afrique, c'est facile à régler. Il faut bloquer les comptes de tous ces gens-là.
Merci, José. José, je suis curieuse, j'ai une dernière question. Je sais que vous m'avez confessé que vous êtes d'origine bissau-guinéenne. Hier, la CEDEAO a donc intronisé Oumaro Sissoko Embalo après des mois de conflit post-électoral. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ?
Ces décisions-là, c'est... Si c'est vrai, il a gagné. Il prend le pouvoir. Maintenant, la Guinée-Bissau en a marre. On est fatigué. Il faut qu'on finisse avec tous ces systèmes-là de propagation, de cinéma. S'il a gagné, on est dans une démocratie générale. On voit tout ce qui se passe dans le monde. Il faut que ça arrête une fois pour tous.
C'est très clair.
S'il a gagné vraiment, qui prend le pouvoir ?
Selon la CEDEAO, après recomptage, les résultats issus du recomptage étaient conformes à ceux donnés dans un premier temps. Merci José, bonne journée à vous.
De rien, merci. Je voulais vous demander, Madame Stéphane, continuez votre émission. Petit à petit, l'Afrique, on va arriver.
Merci beaucoup, merci. José. Ne vous inquiétez pas, on est là, on continue, bien sûr. Excellente journée à vous, mon cher José. Merci beaucoup pour votre message. On continue cette libre antenne. On va, dans un instant, on va retrouver Monsieur Camara, mais avant cela, on va écouter William. William, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour sur Africa Radio, bonjour l'Afrique.
Bonjour William, oui. Alors vous vouliez parler de l'Organisation Mondiale de la Santé, une OMS qui est sous le feu des critiques, notamment des critiques des États-Unis. Mais vous vouliez peut-être revenir sur le catastrophisme de son directeur.
Tout à fait, Stéphanie. En fait, moi, si j'ai choisi ce sujet, parler de l'OMS, parce que l'OMS, comme j'avais dit hier, sur laissé un message, l'OMS est au bout du gouffre. En fait, ils sont hors de la place, ils ne savent plus quoi faire. Et du coup, l'Organisation mondiale de la santé, qui devait trouver la solution pour cette crise qui a été déterminée tout le monde entier, passe tout son temps à prêcher seulement le malheur. Qu'il y aura l'Afrique devait attendre au pire. Que là encore, Tedros a encore parlé, dernièrement, là, il a à peine, je crois, 3 jours, et j'ai suivi sa vidéo. Toujours, c'est-à-dire, ils n'ont pas de solution, Stéphanie. Et moi, de ce pas, je voudrais dire, lancer un appel à nos chercheurs, à nous, Africains. Parce qu'il y en a là-bas, Stéphanie, nous en avons. Et ceux qui dirigent ce monde le savent. Mais comme on n'a pas ce pouvoir de faire entendre notre voix, et c'est là où en fait on nous met toujours au fin fond. Donc il faudrait qu'on se fasse confiance. S'il y a ceux-là qui ont des solutions pour combattre et finir avec ce Covid-19, qu'ils le fassent. Parce que quand on attend l'OMS qu'il puisse donner son aval pour dire oui, on valide, il ne valide rien.
En même temps, moi je veux bien qu'on fasse confiance à la recherche africaine, au contraire, hein, on est les premiers promoteurs de cela sur Africa Radio. Cependant, on peut s'interroger, et c'est juste faire usage de son esprit critique, sur l'efficacité, par exemple, du remède vendu par le président malgache, promu plutôt.
Par exemple, c'est là où j'allais en venir, Stéphanie, parce que moi franchement, je suis très, trop fier de lui, parce que voilà quelqu'un qui s'est dit non, si j'attends les autres, ça ne marchera pas. Et nous avons la solution devant nous. Pourquoi ne pas attaquer ? Ça, c'est comme ça, Stéphanie, qu'on gagne un combat. Quand vous avez des solutions, il faut aller attaquer l'ennemi. L'ennemi, c'est le Covid-19 qui est en train de... On ne le voit pas. Donc, l'OMS raconte que des choses qui empirent encore la situation. Parce que, comme vous savez, je ne sais pas si vous avez écouté dernièrement, fais une parenthèse, Stéphanie, s'il vous plaît. Le professeur Achille Mbembe qui en a fait qui enseigne
philosophe camerounais Achille Mbembe qui est intervenu sur nos confrères de Radio France Internationale.
Il a bien dit, je l'ai écouté. Parce que quand on parle toujours du catastrophisme, mais les Africains sont fatigués. Moi en particulier, je suis fatigué d'écouter ça. On a trop écouté ça, Stéphanie. Nous avons le paludisme qui tue depuis des années. Jusqu'aujourd'hui, l'OMS n'a jamais trouvé ce vaccin, même contre le paludisme. Mais le paludisme tue plus que le coronavirus. Mmh. Et là, ils sont en train de voir pour le vaccin contre le coronavirus. Pendant ce temps, il y a des gens qui meurent du paludisme. Mmh. Il y a Ebola qui a tué, qui continue même encore à tuer en RDC. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font rien, Stéphanie. Donc moi, je voudrais dire aux Africains de se faire confiance. Parce que nous aussi, nous avons un défaut. Quand nous avons quelqu'un qui a trouvé un remède, une solution, au lieu qu'on l'encourage, on le critique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un complexe d'infériorité. Il faudrait que ça revienne de l'Occident. Mmh. C'est le blanc qui a fait. Et d'accord, là, c'est bon. L'hydrochloroquine que le docteur Raoult disait à Marseille, qui a bien dit que ça va se soigner, et puisque moi, j'ai des preuves, l'OMS est influencé par des grandes puissances, il ne veut pas prendre ça en compte.
C'est très clair, cher William, on entend bien ce que vous dites. Hein, évidemment, il faut que les Africains se fassent confiance. C'est ce que vous dites, mon cher William. On l'a vu aussi après comment certains dirigeants ont imité finalement des mesures venues d'ailleurs, au lieu de trouver des mesures adaptées à nos réalités. Merci beaucoup, William. Je demande à Momo de Londres de patienter un petit peu. On va le prendre. Il y a quelques lignes de libre si vous voulez appeler. C'est le 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. On accueille Camara. Camara, bonjour.
Bonjour Madame Estéphanie.
Bonjour Camara, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous vouliez revenir sur l'émission d'hier, ce calvaire de la diaspora pour enterrer ses morts et l'impossibilité de rapatrier les défunts morts du Covid-19.
D'accord. Moi, tout ce que je voulais dire, franchement dire, je vous remercie déjà de tout ce que vous faites. Franchement dire, il n'y a rien à dire. Voilà.
C'est gentil, merci.
Franchement dire. Et je souhaite, c'est-à-dire un bon ramadan à tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Peut-être avec le ramadan, il va faire tout pour nous indiquer ce qui se passe vraiment dans ce monde-là. Voilà. Et pour revenir à c'est-à-dire au sujet d'hier, j'ai tenté l'antenne, mais j'ai pas pu, c'est-à-dire être entendu parce que voilà.
Il y avait beaucoup de monde des fois. Voilà, on a quatre lignes et puis comme je suis toute seule, qu'il y a pas de standard, voilà, des fois là, c'est un peu compliqué.
Voilà. Je m'en excuse. Il y a pas de problème. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir la ligne. Tout ce que je peux dire vraiment sur ce problème-là, franchement, dire l'État, il a failli de ce côté-là parce que. Les gens qui, c'est-à-dire qui sont hors du pays, c'est des soldats, comme un auditeur l'a signalé hier. Ils sont là, c'est pour vraiment lutter, aider les gens qui sont au pays, c'est-à-dire la famille qui est au pays.
C'est ce que disait hier notre invité, hein, Saïdina Alioune Ambaye, qui a publié une tribune. Hein. Il dit un soldat doit mourir sur sa terre. Non,
non. Voilà, c'est un soldat qui est parti pour mourir pour sa terre. Sa terre natale. Donc, ce qu'il a gagné ici, ce qu'il a investi là-bas est plus que ce qu'il a gagné ici. Donc, l'État doit prendre ça en conscience. Bon, pour la mémoire de ces gens-là, qui sont morts vraiment, c'est-à-dire au front, ils doivent, c'est comme des militaires, ils doivent être répatriés. Ça, c'est de un. De deux, nous savons très bien que si l'État ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, créer ici des terrains pour entrer les morts, ils savent très bien que ça ne va pas tenir. Parce qu'au pays, au moyen, quand on est une fois enterré, on ne peut plus être déterré. C'est à vie. Mais ici, on sait très bien être enterré ici. D'ici 10 ans, on va t'enterrer. C'est-à-dire, ton tombe va disparaître dans la nature. On ne peut plus vraiment, parce que c'est payant tous les temps.
Les concessions ont des durées de vie limitées. Et ça coûte peut-être effectivement cher hein, quand vous voulez une concession voilà. À vie.
Hein. Après, si vous voulez, c'est-à-dire payer... Ça ne veut pas dire, parce que peut-être votre fils va payer, c'est-à-dire durant toute sa vie, mais du moment qu'il est c'est-à-dire sorti, c'est-à-dire en vie, lui aussi il est mort, vos petits-fils ne vont même pas c'est-à-dire prendre ça en compte. Et ils ont leur mentalité, ils ont une autre culture. Vous voyez, il y a ça qui est là. Bon, donc pour la dignité des gens, ils n'ont qu'à leur donner toutes les possibilités pour qu'ils puissent répatrier leurs défunts au pays natal. C'est ça leur, c'est-à-dire c'est ce qu'ils ont voulu depuis très, ils ont cotisé dans des caisses ici, ça ne cause pas de problème. Les caisses peuvent, c'est-à-dire les caisses traditionnelles, chaque pays ou chaque village a des caisses pour que les gens continuent, c'est-à-dire cotisent s'il y a un mort pour qu'ils puissent être répatriés. Les gens n'ont qu'à faire tout pour que, c'est-à-dire garder, c'est-à-dire les corps parce que les caisses, ils ont de l'argent. Quelqu'un cotise depuis de 40 ans ici, il ne cotise que pour ça. Voilà.
C'est très clair, Camara. Merci beaucoup. Hein.
Répatrier vraiment, c'est-à-dire les corps. Sinon, franchement, il a failli, quoi.
Rapatrier les corps. D'autant que les rapatriements perdurent, hein, notamment concernant les défunts qui ne sont pas morts hein, du Covid-19. Et puis que, comme voilà. Je disais, hein, Camara, hier, hein, durant l'émission, on va essayer d'interpeller les autorités.
Ici, ça coûte cher. Ici, ça coûte cher. Les gens ne peuvent pas...
garder
pas,
le corps.
Voilà, ils ne peuvent pas garder les corps ici, ni dans les cimetières, ni dans les... Voilà. Surtout même le fait d'enterrer ici, parce qu'après, à un certain moment, il va être déterré, il va être mis je ne sais pas où. Mais hors qu'au pays, c'est pour la vie.
Ad vitam aeternam. Merci voilà. Beaucoup, Camara. J'en profite hein, pour saluer tous les chauffeurs voilà, de taxi, d'Uber, de VTC, comme on dit. Voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer Camara et je le salue. Voilà, c'est dit. 33 1 55 07 58 00. Et je voulais vous dire aussi, on va essayer d'interpeller les autorités sénégalaises d'une part, mais elles ont déjà été fortement interpellées par la diaspora, bien sûr, comme on l'évoquait suite au témoignage hier. On va essayer d'interpeller aussi les autorités guinéennes. Parce que voilà, les Guinéens de France sont aussi confrontés à cette difficulté. Je demande à Ibrahim de patienter un petit peu. On rejoint Momo du côté de Londres. Bonjour Momo.
Allô, bonjour madame.
Bienvenue Momo dans le journal des auditeurs. Alors du coup, je ne sais pas sur quel sujet vous souhaitez vous exprimer.
Ok, en fait, si j'avais la possibilité, je voulais parler du sujet du rapatriement de corps et parler du sujet de surrogame, si c'était possible.
Dans le cas, ouais, j'ai 6 minutes, alors il y a Ibrahim, bah, allez-y, allons-y. Ok. Mais c'est vous qui avez laissé un message hier en disant que moi je veux être enterré sur place.
Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, moi avant, je faisais partie de ceux qui se disaient à ma mort, si ça se passe ici, j'aimerais qu'on rapatrie mon corps, voilà. Mais après, je me suis rendu compte que nos enfants que nous avons, surtout notre génération, nous sommes venus à 20 ans ici. Nos enfants vont grandir ici, ils auront tous ici. La question est de savoir où est l'endroit où on veut se faire enterrer, quelle est la cycle, l'idée qui est derrière. Est-ce que c'est pour que quelqu'un puisse regarder nos tombes, s'occuper de nos tombes? Si c'est le cas, est-ce que nos enfants ne sont pas mieux placés pour cela? Parce qu'en Afrique, est-ce que les gens vont regarder nos tombes après nos morts? Bon, ça, c'est la question. Bon, moi, c'est ce côté-là qui m'avait choisi. C'est pourquoi j'avais laissé un message pareil.
Bien sûr.
Voilà. Donc, moi, maintenant, en fait, tout à l'heure, j'ai écouté un auditeur parler du cas de Soro. Apparemment, j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris les choses. La décision de la Cour est une décision qui suit la forme de la procédure, a demandé à l'État ivoirien de suspendre le mandat d'arrêt et de libérer ceux qui sont en prison. La Cour n'a pas dit que ceux-là sont innocents. Il n'y a pas... Ce n'est pas un jugement. Moi, je suis un sympathisant du président Soro. Nous ne demandons pas une faveur. Nous demandons seulement que la justice soit dite et les procédures soient suivies de façon normale. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas une clémence, quoi que ce soit. Pour les premiers, pour la décision de la Cour de justice, nous avons tous constaté de façon... neutre, on voit que la procédure n'a pas été suivie. Et on demande que la procédure soit suivie. Donc, dans la forme, ce n'est pas normal. Donc, étant donné que dans la forme, ce n'est pas normal, il faudrait que ces personnes qui sont des êtres humains, qui ont aussi leurs droits, quel que soit Alpha, que leurs droits soient respectés et qu'on les libère en attendant que le fond soit jugé. Et s'ils doivent retourner devant la justice, ils reviendront devant la justice. Moi, je peux vous dire que ces personnes-là n'ont pas envie de fuir la justice de leur pays. Ça, je peux garantir ceux qui... Bien sûr, une décision était tombée. La Côte d'Ivoire, récemment, a gagné un procès de ce genre face au PDC devant cette même cour. On a écouté les avocats de l'État de Côte d'Ivoire qui ont trouvé que cette cour a bien travaillé, etc. Aujourd'hui, la décision est contraire. Qu'on nous montre aussi cette démocratie, cette façon d'accepter le truc, et on continue parce que ce sont des points qui vont tenir dans le futur pour les générations qui viennent. Je dois savoir que une justice quand même existe. Moi, c'est ce que je voulais dire.
C'est
donc,
très clair.
Vraiment, voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous qui sommes les sympathisants de ce Sorogium, et le combat continue.
Merci Mohamed de votre intervention. Bonne journée du côté de Londres. Ça, tout va bien, ça va, c'est pas le confinement perdure, hein, c'est ça à Londres.
Ouais. Ça va, notre confinement est un peu relax, c'est pas comme la France, mais ça va. J'arrive à faire mes activités autour, mais j'évite d'être dehors au maximum. Je sors seulement faire ce que j'ai à faire rapidement et je suis à la maison. Voilà, ça se passe bien.
Merci Mohamed, bonne journée à vous. Hein. Prenez soin de vous. Merci beaucoup de votre appel. Je demande à Aboubakari de patienter un peu. On va écouter Ibrahim avant et je vous lis ce message un peu provoquant de Salami, puisqu'on évoquait la diaspora, hein, avec notamment Camara sur le côté rapatriement. Il y a Africa Radio, émettant de Paris pour la diaspora. Qui a apporté quoi à l'Afrique à ce jour autre que des blablabla, nous dit Salami. Ibrahim, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Ibrahim. Alors, de quel sujet souhaitez-vous parler?
Je voulais parler de Guillaume Soro.
Ah.
Moi, je suis d'accord comme la première personne qui a parlé de Guillaume Soro.
De Dieudonné, tout à l'heure, depuis Abidjan, qui nous disait il faut que le président Ouattara respecte la décision de la CADHP.
Non, ce n'est pas ça seulement. Je pense que la loi doit appliquer sur Guillaume Soro. Concernant, il y a beaucoup de trucs que Guillaume Soro a fait. Le problème de Burkina, tout ça là, il y a tout ça. Et après, tout dernièrement, c'est qu'il a, il voulait faire un trouble.
Vous êtes d'accord avec le deuxième auditeur hein, qui disait, voilà, je ne comprends pas pourquoi la Cour ne s'est pas penchée sur les écoutes, hein, par exemple. On le disait, et Momo venait de le rappeler, hein, que finalement, la Cour africaine s'est prononcée sur la forme et pas sur le fond.
C'est la deuxième personne.
Voilà.
Donc, il n'y a personne qui est... on ne peut pas choisir un côté et l'autre côté, on banalise. Donc, ce qui s'est passé pour le blé goudé, Bago, tout ça là, donc moi, je pense que Guillaume Soro doit être jugé en Côte d'Ivoire. C'est ça que je voulais dire, madame. Bonne
c'est
journée.
Très clair. Merci beaucoup, Ibrahim. Il reste une petite minute. Aboubakari, bonjour. Moins d'une minute,
bonjour.
Même. Vous vouliez parler de quoi, Aboubakari?
Non, mais j'allais contredire le dit président qui dit que ça coûte cher d'enterrer les personnes en France ici. Il allait lui dire 10 ans, pour enterrer quelqu'un en France ici, 10 ans, c'est 200 euros, quoi. C'est 200 euros.
Ouais.
Donc, en 10 ans...
Oui, c'est ça, sur 10 ans. Mais alors, effectivement...
En Afrique,
ouais.
Non, mais quand il a dit que le corps ne reste pas ici enterré définitivement, je vais lui dire, chez moi, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a les cimetières. On appelle les anciens cimetières qui sont devenus les villes aujourd'hui. Ça a été rasé.
C'est pas faux.
Il y a des maisons là-bas.
Merci, Abou Bakari. J'ai pas le temps de vous prendre plus longtemps, mais effectivement, hein, j'ai failli moi-même faire la réflexion. J'ai pas osé. On voit l'état de certains cimetières, hein, parfois, sur le continent. Voilà. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer les débats sur notre page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs, ou sur notre compte Twitter. Je vous propose lundi peut-être de parler des scrutins présidentiels menacés par l'épidémie de Covid-19. Ils sont un certain nombre à devoir avoir lieu cette année 2020. Auront-ils lieu? On en parle lundi. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute d'Africa Radio.